France Inter.
Le 13-14 de France Inter, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'État doit-il agir pour éviter une flambée des prix à la pompe? Les demandes se font de plus en plus pressantes de la part de l'opposition mais aussi des distributeurs. Ils étaient reçus tout à l'heure à Bercy. Le ministre de l'économie leur demande de rester raisonnable, promet des contrôles. Mais c'est sur la fiscalité qu'il faut jouer, répondre les intéressés. On ira sur place. Tout cela provoqué par une guerre au Moyen-Orient qui dure et qui s'étend. L'Iran cible désormais des positions kurdes soupçonnées d'être soutenu par les États-Unis. Et puis le bilan s'alourdit encore au Liban. On prendra la direction de Beyrouth dans les prochaines minutes. En France, J-10 avant le premier tour des élections municipales. Bonjour Victoria Coussa.
Bonjour.
Les clés des municipales avec vous comme tous les jeudis. Et on va se pencher aujourd'hui sur les listes des candidats.
Oui, vous allez bientôt pouvoir voter et on épluche ensemble les candidatures déposées en préfecture, toujours nombreuses, parfois atypiques et de plus en plus féminines.
Merci Victoria. À tout à l'heure. Le policier qui avait tué Naël lors d'un contrôle routier en 2023 sera bien jugé, mais pas pour meurtre, pour violence ayant entraîné la mort, une décision qui ne satisfait, on va le voir, aucun des camps. On va parler vaccin aussi, et c'est avec vous, Lucie Loconi, bonjour.
Bonjour.
Il devrait bientôt y avoir un vaccin combiné contre la grippe et le Covid.
Oui, un vaccin qui fait une pierre deux coups. Le laboratoire Moderna espère bientôt pouvoir le commercialiser en Europe.
Toutes les précisions à suivre. Qui sera sacré meilleur jeu vidéo de l'année à quelques heures de la cérémonie des Pégases? On fera un tour d'horizon des grands favoris. Et puis on viendra sur les Césars. La semaine dernière, L'Attachement avait été élu meilleur film. Il est adapté d'un roman signé Alice Fernet. Et l'autrice est avec nous tout à l'heure à 13h30. Si vous voulez intervenir, donner votre avis sur le film, sur le livre ou sur les deux, eh bien n'hésitez pas. 01 45 24 7000. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Il y a certes une hausse de quelques centimes par litre, mais pas plus. Et il n'est aucunement nécessaire de se ruer dans les stations-service. Pas de risque de pénurie. Depuis le début de la semaine, le gouvernement multiplie les déclarations rassurantes, ce qui n'empêche pas les questions. Combien de temps va durer le blocage du détroit d'Ormuz, donc les difficultés d'acheminement du pétrole? Est-ce le début d'une hausse plus massive des prix à la pompe? Et faut-il agir dès maintenant pour protéger le pouvoir d'achat des Français? Le gouvernement est sous pression, interpellé d'abord par l'opposition. Écoutez, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, président de la Commission des Finances de l'Assemblée.
Je pense qu'il faut réfléchir à un blocage des prix de façon à ce que, justement, quelque part, on n'aille pas vers cette augmentation. Parce qu'une fois qu'on y sera, ça sera trop tard. Le ministre de l'Économie doit assez vite réfléchir à la question du blocage des prix. Vu les marges des distributeurs et les marges des pétroliers dans la situation actuelle, on peut se permettre de prendre ces décisions.
Éric Coquerel sur France Info, qui évoque, vous l'avez entendu, les marges des distributeurs, mais des marges, il n'y en a pas. Lui répond en substance Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U, qui lui aussi estime que la solution est à trouver du côté du gouvernement.
Encore une fois, c'est une répercussion jour le jour, mais vous savez, le grand gagnant dans cette affaire, c'est qui? C'est l'État. Nous, ce qu'on veut, on veut être le plus compétitif possible, donc il n'y a pas de sujet de marge. Autour des 2 euros, on fait très attention, c'est un seuil psychologique, symbolique, on fait tout dans nos stations pour rester en deçà. Après, il y a une réalité des prix. Nous, on doit couvrir aussi nos charges. Une station, ça ne fonctionne pas gratuitement, hein. C'est de l'électricité, c'est beaucoup d'entretien, etc. On cherche juste à couvrir ça.
Et ce sont donc des distributeurs très remontés qui se sont rendus tout à l'heure au ministère de l'économie, vous vous trouvez, Raphaël Benhamdel-Moumen, bonjour.
Bonjour.
Alors la réunion vient de s'achever à Bercy et le ton, Raphaël, semble un peu apaisé.
Au terme d'une rencontre d'une petite heure qui a surtout permis au gouvernement de répéter son appel à la retenue des distributeurs de carburant, les prix doivent rester contenus, c'est ce qu'a plaidé le ministre de l'économie Roland Lescure, un message que comprend Francis Pousse, président de la branche carburant du syndicat Mobilience.
J'ai les moins pris comme un coup de pression, la discussion a été plutôt agréable, mais j'ai pu quand même rappeler que effectivement, en particulier pour les stations-service rurales que je représente, faire une pression sur les marges alors qu'elles ont du mal à s'en sortir en régime normal, c'est pas forcément le bienvenu.
Francis Pousse qui doute aussi de l'efficacité des contrôles de l'État censé vérifier que les prix à la pompe restent raisonnables par rapport au prix du baril. Mais ces contrôles auront bien lieu, a confirmé le ministère.
Alors on a entendu tout à l'heure, Raphaël, que chacun se renvoyait la responsabilité de la hausse des prix. Comment finalement sont déterminés les prix dans les stations-service?
Bien, ça dépend d'abord de la matière première, le pétrole brut. Le prix du baril de Brent était à 70$ la semaine dernière. Ce matin, il est à 83$. Or, on estime $1 de plus pour le baril revient à une augmentation d'un centime à la pompe. Ça correspond donc à l'augmentation de quelques centimes qu'on a observé ces derniers jours. Ensuite, il faut ajouter la marge du distributeur, proche de zéro dans les grandes surfaces, plus élevée sur l'autoroute par exemple. Et surtout les taxes, 60% du prix du litre. Bercy a confirmé ce matin qu'aucune baisse de la TVA sur les carburants n'est à l'étude tant que la hausse du prix du baril reste sous contrôle.
Merci Raphaël Ben Abdelmoumen en direct de Bercy avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Et pendant ce temps sur le terrain, la guerre semble encore s'étendre. On recense encore des frappes ces dernières heures sur l'Iran, sur les pays du Golfe. Le Qatar notamment annonce avoir intercepté une attaque de missiles sur le Liban. On rejoindra notre envoyé spécial à Beyrouth dans un instant. Mais voilà que les Kurdes se trouvent aussi entraînés dans ce conflit. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour à tous.
Envoyé de France Inter, envoyé spécial de France Inter à Istanbul. Les groupes armés kurdes pourraient-ils profiter du chaos pour défier l'Iran? C'est ce que craint visiblement le régime iranien qui annonce avoir visé les forces kurdes en Irak, dans la région autonome du Kurdistan.
Oui, le régime iranien affirme aujourd'hui avoir tiré 3 missiles sur des bases des partis kurdes iraniens au Kurdistan irakien. Une source au sein de l'un de ces partis estime que Téhéran a effectué 30 attaques de drones ou de missiles contre les militants kurdes depuis samedi. L'une de ces frappes a tué hier un combattant au Kurdistan irakien dans la province d'Erbil. De l'autre côté de la frontière, les bombardements américains et israéliens se multiplient sur des positions du régime. Ces frappes pourrait théoriquement servir à affaiblir l'Iran avant une éventuelle offensive au sol des combattants kurdes depuis l'Irak.
Alors Timur, les Kurdes peuvent-ils vraiment lancer une opération militaire contre le régime ?
C'est ce qu'ont affirmé plusieurs médias américains, dont CNN, avec le soutien de la CIA. Information démentie par la Maison-Blanche. Les partis kurdes iraniens affirment également que leurs troupes n'ont pas débuté d'action militaire en Iran. Ces groupes, historiquement divisés, ont formé une coalition il y a une dizaine de jours. De combien de combattants disposent-ils ? On l'ignore, mais ils ne font pas le poids seuls face à la République islamique et ils ne pourront pas agir sans le feu vert du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Son président, Netchirvan Barzani, a reçu ces derniers jours des appels de Donald Trump, mais aussi d'Emmanuel Macron, du ministre turc des Affaires étrangères ou encore du chef de la diplomatie iranienne, laissant entrevoir d'intenses tractations.
Et on voit donc, merci Timur Öztürk depuis Istanbul, que le régime iranien est engagé sur plusieurs fronts et qu'il veut faire la démonstration de sa puissance. Téhéran a annoncé avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe et dit avoir visé l'aéroport israélien de Ben Gurion avec des missiles. Et pourtant, les États-Unis, Israël assurent que la riposte iranienne s'essouffle. L'armée américaine estime même que les tirs de missiles sont en baisse de 86% par rapport aux premiers jours de la guerre. Et ce sont des chiffres, Boris Luman, qui sont confirmés par des experts militaires indépendants.
Depuis le déclenchement de cette guerre, Téhéran a envoyé plus de 700 missiles et 1 000 000 de drones en direction d'Israël et des pays du Golfe. Mais la cadence des tirs diminue de jour en jour. Concrètement, l'Iran a tiré 350 missiles le premier jour, 170 le deuxième, 120 le troisième, 50 avant-hier, 40 hier. Et la tendance est à peu près identique pour les tirs de drones. Alors, comment expliquer un tel ralentissement ? Tout d'abord, les États-Unis et Israël visent et détruisent en priorité les sites de stockage et de lancement des projectiles iraniens. Par ailleurs, en juin dernier, pendant la guerre de 12 jours, Téhéran avait déjà dû puiser dans son stock et depuis, les réserves n'ont pas été complètement reconstituées. Enfin, si les tirs iraniens sont moins nombreux, c'est aussi parce que les gardiens de la révolution le savent. La guerre sera longue et si l'Iran veut rester menaçant, le pays doit gérer au mieux son stock de missiles.
Boris Lomagne de la rédaction internationale. Partons maintenant au Liban, dont le sort suscite beaucoup d'inquiétudes. Hier soir, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas mener d'offensive terrestre chez son voisin, le Liban, toujours sous les bombes. 8 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des bombardements israéliens dans l'est et le sud du pays. L'armée israélienne assure avoir commencé à frapper l'infrastructure du Hezbollah à Beyrouth, la capitale libanaise, où vous vous trouvez, Étienne Monin. Et dans le ton, dans la stratégie, Étienne, on sent que quelque chose a changé du côté du mouvement chiite libanais.
Oui, d'abord dans les mots, hier le secrétaire général du Hezbollah s'est exprimé pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre. Naïm Qassem a justifié l'engagement de sa milice, il a rejeté les appels du gouvernement à déposer les armes et son parti a annoncé un engagement plus prononcé dans la confrontation. Ensuite, sur le terrain, dans le sud, le Hezbollah a revendiqué une dizaine d'attaques depuis hier soir. Il affirme avoir accroché l'armée israélienne dans deux secteurs, ce qui est nouveau, avec une attaque à l'explosif dans le village de Qiam, qui aurait contraint l'armée israélienne à reculer. La milice affirme aussi avoir envoyé des essaims de drones contre une base au nord d'Israël et contre un complexe militaro-industriel, plus au sud, à Saint-Jean-d'Acre, plus profondément dans le pays. Le Hezbollah fait face à une pression interne du gouvernement libanais qui cherche à éteindre l'incendie. Il essuie aussi les critiques d'une partie de sa base qui a le sentiment de ne pas avoir été pris en compte dans l'équation, mais il est militairement affaibli depuis la dernière guerre et le rapport de force apparaît fortement déséquilibré.
Merci Étienne Monin. À Beyrouth, avec les moyens techniques de Martin Troadec. Et face à cette situation, l'Europe s'engage un peu plus. L'Italie, la France, l'Espagne et les Pays-Bas vont envoyer des moyens navals pour défendre Chypre dans les prochains jours. C'est en tout cas ce que dit le gouvernement italien, alors que le ministre britannique de la Défense, lui, se rend sur l'île qui avait été visée par des frappes de drones. Quant à la Chine, elle pâtit aussi économiquement de cette guerre au Moyen-Orient, très dépendante du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz. Le pays s'inquiète de son approvisionnement et par crainte de pénurie, Pékin demande notamment à ses raffineries de ne plus exporter d'essence qui risque de fragiliser encore un peu davantage une économie moins florissante qu'elle n'a pu l'être. Sébastien Berriot, vous êtes à Pékin ce matin. Le premier ministre chinois a dévoilé l'objectif de croissance officielle pour 2026 et il est historiquement bas.
Devant près de 3000 parlementaires réunis autour du président Xi Jinping dans le prestigieux Palais du Peuple, place Tiananmen, le premier ministre Li Qiang reconnaît implicitement que l'économie chinoise est en difficulté. Une prévision de croissance entre 4,5 et 5% c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans si on enlève la période du Covid. Le régime chinois annonce que le plan quinquennal qui va être voté cette semaine va fixer une grande priorité pour les 5 ans à venir, relancer la consommation intérieure pour être moins dépendant des exportations, notamment vers les États-Unis. La Chine mise aussi sur ses hautes technologies, les robots et leur intelligence artificielle. Le budget des sciences et technologies augmente de 10% à plus de 50 milliards d'euros. Pas un mot dans le discours sur la guerre au Moyen-Orient, qui pourtant menace directement l'économie chinoise. Tout dépendra de sa durée, mais le conflit pourrait contraindre Pékin à baisser davantage encore ses objectifs de croissance.
Sébastien Berriot depuis Pékin pour France Inter. Ce sont des élections cruciales. Dans un pays où la jeunesse s'est soulevée il y a à peine quelques mois, le Népal vote aujourd'hui pour ses députés, 6 mois après le mouvement populaire qui avait entraîné la chute du gouvernement. L'ex-premier ministre est déterminé à reprendre le pouvoir, mais il est concurrencé notamment par un rappeur devenu maire de Katmandou et qui mise sur le vote des plus jeunes électeurs. Et des maires qui rêvent de s'attirer les bonnes grâces des jeunes électeurs. Il y en a aussi ici en France, municipal J-10. Et comme chaque semaine, on fait le point sur la campagne avec le service politique de France Inter et avec vous aujourd'hui, Victoria Coussin. Alors maintenant que les candidats se sont déclarés, qu'ils ont déposé les dossiers, le ministère de l'Intérieur a publié ses chiffres. Et il y a des bonnes nouvelles.
Oui, près d'un million de Français, 900 000 pour être précise, ont fait le choix de s'engager pour tenter d'améliorer le quotidien de leur commune. C'est le nombre de candidatures déposées dans les 35 000 villes et villages du pays, même si ce chiffre diminue légèrement au fil des décennies.
Alors, autre bonne nouvelle, Victoria, la parité, elle est presque atteinte.
Ça, c'est si on regarde le verre à moitié plein. Les conseils municipaux compteront quasiment autant d'hommes que de femmes. Les listes sont quasi paritaires puisque c'est obligatoire pour ce scrutin, même dans les communes de moins de 1 000 habitants. Épargné jusque-là, mais le nombre de noms qu'on y trouve sur ces listes est souvent impair, ce qui veut dire qu'il y a souvent un déséquilibre et souvent un homme en plus tête de liste.
Et ça, c'est pour le verre à moitié vide.
C'est le plafond de verre, oui, à l'échelle locale. Les femmes s'y heurtent encore, même plus que lors du dernier scrutin. 3/4 des listes ont à leur tête un homme, c'est-à-dire qu'ils seront forcément plus nombreux à prendre les clés de l'hôtel de ville. Et ça, c'est toutes couleurs politiques confondues, même s'il y a plus de candidates dans les équipes d'extrême-gauche que dans celles de droite et d'extrême-droite. Aujourd'hui, seules 2 maires sur 10 sont des femmes.
Alors, pour le suspense de l'élection, Victoria, là, ça se jouera surtout dans les grandes villes.
Effectivement, pour les amateurs du du grand frisson, vaut mieux vivre à Paris, Bordeaux ou Strasbourg, puisque deux tiers des communes, les plus petites notamment, n'ont qu'une seule liste. Les habitants connaissent donc déjà le nom de leur prochain maire. À quoi bon aller voter, se disent certains. Eh bien, glisser un bulletin dans l'urne, c'est dire oui ou non, légitimer ou pas la prochaine équipe amenée à voter des projets qui peuvent peser sur les finances publiques.
Il y a même des communes qui n'ont pas de liste du tout.
68 orphelines,
oui,
dans toutes les régions, sauf la Corse et surtout dans l'Est. Personne pour s'occuper de Rincourt en Haute-Saône, sa fontaine en Vieille-Pierre, ou de Roteau dans le Bas-Rhin, son petit château et sa gare. 1500 habitants tout de même. 68 sans liste, c'est moins que lors des dernières municipales, malgré le grand malaise des élus dont on a beaucoup parlé. Dans ces cas-là, la préfecture prend le relais et nomme 3 fonctionnaires pour gérer les affaires courantes et organiser de nouvelles élections dans les 3 mois. Aucun projet ne sera lancé. Et généralement, des habitants attachés à leur commune finissent par se dévouer en dernière minute pour éviter la fusion. C'est l'ultime recours, rarement activé.
Et puis, dans toutes ces candidatures, Victoria, il y a certains profils qu'on va dire atypiques.
Oui, petit best-of, un ancien candidat de l'île de la Tentation, c'est de la télé-réalité et la Villa des Cœurs Brisés, un prince indien, un retraité qui propose de changer le nom de la ville de Toulouse, et le retour de Rémi Gaillard à Montpellier, pro des caméras cachées et sa devise, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
On verra si ça lui porte chance. Les clés des municipales et les chiffres, merci beaucoup Victoria Coussa. Sa mort au mois de juin 2023 avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Il y aura bien un procès pour le policier qui a tiré sur Naël Merzouk. Décision de la cour d'appel de Versailles ce matin, près de 3 ans après le décès de l'adolescent tué dans une voiture à bout portant lors d'un contrôle à Nanterre. Mais le policier ne sera finalement pas jugé pour meurtre, Yannick Falt, mais pour violence ayant entraîné la mort.
C'est l'intention de tuer que la justice n'a pas retenu, ce que ne comprend pas Margot Pugliese. L'avocate défend plusieurs membres de la famille de Naël Merzouk.
La famille va être extrêmement déçue. C'est le dernier coup qu'on pouvait leur porter, je pense. Les juges d'instruction avaient très très bien motivé l'intention homicide du policier, à la fois en droit et en fait, qui permettait d'établir que le policier avait voulu tuer Naël, parce que quand on tire dans la poitrine d'un jeune homme à bout touchant, on ne peut pas écarter l'intention homicide. Enfin, en tout cas, ça semble complètement invraisemblable.
Une décision de la cour d'appel de Versailles qui ne satisfait pas non plus Laurent Franck-Liénard, l'avocat du policier, fonctionnaire qui ne sera pas jugé devant une cour d'assises, mais devant une cour criminelle, uniquement par des magistrats.
Pour nous, c'est une double déception. D'abord parce qu'elle n'a pas eu le courage de dire qu'il y avait un non-lieu qui s'imposait dans ce dossier. Et ensuite, elle fait échapper mon client au jury populaire. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que le jury populaire aurait été très favorable à ce policier. J'attends toujours d'un jury populaire le bon sens. À des gens, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Manifestement, à des magistrats, on peut leur raconter n'importe quoi, et c'est un peu dommage.
Et l'avocat du policier, comme les avocats de la famille de Naël Merzouk, annonce leur intention de se pourvoir en cassation.
Les précisions de Yannick Falt. Toujours dans l'actualité judiciaire, cette question, Edwige Alessandri a-t-elle été victime d'une erreur judiciaire ? Voilà 26 ans que cette femme clame son innocence. À 3 reprises, la justice l'a reconnue coupable du meurtre de son mari, tué d'un coup de fusil en pleine tête dans leur maison du Vaucluse. C'était en juillet 2000, mais son avocat vient de déposer ce matin une requête devant la cour de révision. Bonjour Manon Lombard-Brunel.
Bonjour.
Edwige Alessandri a toujours affirmé que son mari avait été tué par des cambrioleurs, une piste relancée par un journaliste qui a publié une contre-enquête.
Au cœur de laquelle on retrouve 2 mégots de cigarettes. C'est d'ailleurs le titre de ce livre publié par notre confrère Geoffrey Le Guilcher. Sur ces 2 mégots de cigarettes, de l'ADN est retrouvé. Il est d'abord inconnu, mais 10 ans après le meurtre, de nouvelles analyses montrent qu'il appartient à un cambrioleur connu dans le village. C'est une piste que défend depuis toujours Maître Damien Brossier, c'est l'avocat d'Edwige Alessandri.
Ils sont extrêmement importants, ces 2 mégots. Ces mégots ont été retrouvés à une 15aine de mètres de la maison, trouvés à côté de traces de pas, parce que le sol a été arrosé juste avant. Et juste avant, il a été tondu. Donc on sait que la personne se trouvait là pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qui veut dire qu'au moment des faits, vous aviez une personne qui, dans un endroit complètement isolé, se retrouvait sous les fenêtres de la famille Alessandri au moment du meurtre.
Une piste que vient donc relancer ce livre et qui pousse Maître Brossier à défendre une nouvelle fois l'innocence de sa cliente.
Vous imaginez la situation ? Vous êtes en train de dormir dans votre lit, vous êtes réveillé par un coup de fusil et vous vous retrouvez avec le cadavre de votre mari à côté de vous et vous couvert du sang de votre mari. Et 4 mois après, on vient vous chercher en disant « Vous savez, madame, en fait, c'est vous qui avez fait ça. » Donc, il y a une quête de vérité et de reconnaissance de son innocence depuis maintenant un quart de siècle.
Et c'est donc désormais à la Cour de révision de se prononcer sur l'ouverture de nouvelles investigations. Ça ne sera pas avant plusieurs mois.
Merci Manon Lombard-Brunel, service police-justice de France Inter. En Corse, le chantier d'un fast-food endommagé par une charge explosive. Il s'agit d'un restaurant Burger King en construction à Brunelli di Fiumorbo, dans le nord de l'île. L'explosion a touché la devanture du site. Pas de revendication. Une enquête a été ouverte pour destruction par un moyen dangereux et association de malfaiteurs. Faut-il se faire vacciner contre le Covid, contre la grippe ou bien les deux à la fois, une aiguille dans chaque bras, chaque hiver? Depuis quelques années, c'est le dilemme pour certains Français, mais la décision sera peut-être bientôt facilitée par cette innovation dont on va parler ensemble. Lucie Loconi, bientôt un vaccin combiné grippe-Covid, peut-être pour l'hiver 2027-2028. C'est le groupe américain Moderna qui est en passe d'obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe pour les plus de 50 ans et l'Agence européenne du médicament, Lucile, recommande de l'autoriser. Hein.
Oui, avec ce vaccin appelé Mcomriax, terminer les allers-retours en pharmacie. Une injection par an contre deux virus respiratoires. C'est possible grâce à l'ARN messager, explique Arnaud Chéré, directeur médical de Moderna.
En fait, c'est dans un vaccin, on va demander à notre organisme, après l'injection, de produire des protéines qui vont permettre de développer une réponse immunitaire contre différents variants de la grippe, différentes souches, et contre le SARS-CoV-2 de la COVID-19. Tout ce qui peut faire que la vaccination est plus simple va permettre d'avoir plus de personnes vaccinées.
Car fin décembre, seulement 15% environ des plus de 65 ans étaient vaccinés contre le Covid, 53% contre la grippe, selon Santé publique France. Pour Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Étienne, ce vaccin peut convaincre les plus réticents.
Ça va peut-être limiter la résistance qu'il peut y avoir sur la vaccination Covid, sur le fait qu'on peut s'infecter, qu'il y a quand même des gens malades après être vaccinés. Je pense que ça va renforcer sans doute la confiance à la vaccination, le fait de combiner ces deux vaccins.
Et pour être mis sur le marché, ce vaccin combiné doit encore obtenir tous les feux verts. La Commission européenne doit se prononcer avant l'été.
Lucie Loconi, merci. Service Sciences Santé de France Inter. Des habitants qui meurent de manière mystérieuse dans le Paris de la Belle Époque. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire pour décrire le jeu Clair-Obscur Expédition 33, ce jeu français né à Montpellier qui cartonne dans le monde entier. Et pourtant, ce n'est pas forcément lui qui va tout emporter ce soir au Pégase. La grande fête annuelle du jeu vidéo français, Olivier Bénis, le jeu Clair-Obscur est un favori parmi d'autres.
4 nominations sur 16 catégories au total. Le message de ces Pégase 2026 est clair et pas du tout obscur. Pas question de revivre l'expérience des Game Awards 2025 où le studio montpelliérain Sandfall Interactive avait fait une razzia à la limite de l'indigestion avec un nombre record de nominations, 13, et un nombre record de prix, 9. Il y aura bien plus de suspense au Pégase où Clair Obscur n'est présent que dans les catégories meilleur jeu vidéo, excellence visuelle, meilleur univers sonore et excellence narrative.
Nous honorons votre sacrifice.
C'est le formidable mais bien plus discret Absolum qui est en tête des nominations. Première création 100% maison du studio Dotemu. Ce jeu d'action original et prenant est présent dans 5 catégories, dont 3 en concurrence directe avec le champion du Made in France. I will show you true power. Autre challenger à surveiller de près, The Rogue Prince of Persia, relecture particulièrement addictive d'un classique des années 80, édité par l'incontournable Ubisoft, et Wednesdays, un jeu indépendant touchant d'une rare subtilité sur un sujet pourtant difficile, les violences sexuelles sur mineurs. Tous deux sont nommés dans 4 catégories, au milieu d'une sélection particulièrement variée, pour une compétition très ouverte, sans bulldozer pour tout rafler.
La cérémonie des Pégas, 7e édition, aura donc lieu ce soir à partir de 20h. C'est à la Cigale à Paris. Lui a été pressenti plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature, car son œuvre a séduit bien au-delà de son pays d'origine. Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort à l'âge de 83 ans, annonce sa maison d'édition, auteur de plusieurs romans, dont le Manuel des Inquisiteurs ou encore le cul de Judas consacré à la société portugaise et ses évolutions. Écoutez-le, il y a quelques années, il était au micro de Laure Adler sur France Culture.
J'ai très peur de ne plus écrire. Vous savez jamais si vous allez écrire encore un livre. Moi, je sais jamais. Et quand c'est fini, là, j'ai rien. Donc je reste vide. J'ai comme l'impression que je me suis bâti de l'enfance pour ne faire que ça. Et je suis complètement inutile. Je sais pas cuisiner, j'ai pas de portable, j'ai pas de carte crédit, j'ai rien. Je sais pas si la littérature peut être utile pour moi. Victor Hugo a été très utile. Quand on était à la guerre, on était toujours bombardé vers 11h du soir.
Donc c'était en Angola, pendant la guerre d'Angola.
Oui. Et donc on dînait à 5h, parce qu'il y avait encore de la lumière. et puis rester là en attendant que ça commence. Un jour, le capitaine est apparu avec la Légende des siècles. Et nous parlions très mal français. Après le dîner, on lisait à haute voix la Légende des siècles. Un lieutenant lisait pendant un quart d'heure, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'était incroyable. Soudain, dans cette misère, et dans c'était horrible tout cela. Il y avait une humanité, la beauté, tout cela. Je crois que ça m'a sauvé des consultations de stress post-traumatique et tout cela. Et je pensais pas, avant, que la poésie pouvait avoir une utilité immédiate.
L'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, qui était donc l'invité de Laure Adler dans l'émission Hors Champ, c'était sur France Culture et c'était en 2011. Il reste un ticket pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Il se jouera ce soir lors du match entre Lyon et Lens, 21h10. L'OL désormais grand favori au lendemain de l'élimination de Marseille. Et puis c'est une autre compétition, moins médiatique que la Coupe de France, mais qui demande aussi une préparation exigeante. Les championnats du monde de nage en eau glacée ont lieu en ce moment en Finlande. Et parmi les participants figure une habitante de Châtillon-sur-Indre. Cette spécialiste de la nage en eau libre a découvert récemment la discipline et elle s'est équipée pour pouvoir s'entraîner presque comme les Finlandais. Jérôme Collin.
Moins 10 sur le thermomètre dehors et une eau à moins 1 degré. Natacha Perrier est tout de suite dans le vif du sujet.
Moi, j'ai mis sur mes réseaux que j'avais nagé dans du Coca-Cola gelé et c'est vraiment ça. La sensation, elle est que l'eau, elle est à moins 1, donc en fait, elle est épaisse comme de la glace fondue.
Des conditions difficiles qui expliquent les chronos pas très rapides, presque 7 minutes pour boucler 450 mètres. Tout ça laisse beaucoup de temps pour souffrir.
C'est super dur. L'eau glacée, ça fait mal. Enfin, clairement, c'est quelque chose. Quand je sors de l'eau, on a le corps qui est anesthésié en entier. On a l'impression qu'on s'est fait transpercer par du verre, en fait.
Heureusement, Natacha Perrier habitue son corps depuis 3 mois avec une préparation pas banale.
Quand j'ai acheté le congélateur, on s'est un peu foutu de moi.
Oui, oui, votre cerveau n'est pas givré. Vous avez bien entendu un congélateur.
Mon conjoint étant frigoriste, il a modifié le thermostat pour que je puisse régler la température de l'eau. Et donc, j'ai fait des bains à de l'eau à 0,1 pour essayer d'habituer mon corps vraiment à ce que l'eau glacée ne me fracasse pas parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup, ils ressortent, ils marchent pas, il tremble. Mais je n'ai pas mal vécu la chose dans le sens où en 20 minutes, j'étais déjà réchauffée. Et là, je pète la forme.
Et ses performances parlent pour elle avec notamment le 4e meilleur temps mondial sur 450 mètres avec un record personnel explosé à la clé.
Voilà, c'est très impressionnant donc cette préparation à la nage en eau glacée. Reportage Jérôme Collin, ici Berry. 13h27, restez avec nous sur France Inter. Dans les prochaines minutes, on va retrouver les prévisions météo de Céline Dacosta pour voir ce que nous réserve le ciel cet après-midi et demain. Et puis avec notre invité, on va parler d'un livre devenu un film, devenu le grand succès de la dernière cérémonie des Césars. L'autrice Alice Fernet est avec nous pour évoquer l'intimité. C'est son roman adapté au cinéma sous le titre L'attachement, César du meilleur film. N'hésitez pas à intervenir. 01 45 24 7000. Notre feuilleton dans les rayons du bazar d'électricité. 140 ans que ce magasin parisien vend des luminaires et des ampoules. C'est une institution. On va découvrir aujourd'hui des lustres d'exception dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France et le jeudi, c'est gastronomie. Avec vous, Marie-Luc Ribot, bonjour.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau genre de sportif.
On les appelle les food runners et cela ressemble bien à une réaction au culte de la performance. Dans toutes les grandes villes de France, ces communautés de coureurs se retrouvent autour d'une pizza ou d'un cookie.
Mais bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Céline.
C'est une chanson qui est à votre micro.
Le compositeur et chef d'orchestre Thomas Roussel qui nous raconte son rapport avec All is Full of Love, une chanson de la chanteuse Björk.
Merci à tous les deux, à tout de suite.
Ah, le mois de mars. Plus le matin, plus le soir. Pour lundi 50, c'est pas tout de suite. Mais pour acheter ses billets Paris-Lyon pour l'été avec Trenitalia, là, c'est tout de suite. Soyez premier sur l'été dès le 4 mars sur trenitalia.fr à partir de 23 euros. Oui, trenitalia.fr.
France Inter, partenaire du film Alter Ego.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ça va pas être possible, ça.
Et si une meilleure version de vous-même débarquait dans votre vie?
Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir.
Le nouveau voisin d'Alex est son sosie parfait. À un détail près, contrairement à lui, il a des cheveux. Un double qui va totalement bouleverser son existence.
Ce type, c'est moi, en mieux.
Découvrez la nouvelle comédie décalée de Nicolas et Bruno avec Laurent Lafitte, actuellement au cinéma, un film France Inter.
13h29, la météo.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et ça ne change pas, hein, le soleil, la douceur, toujours au rendez-vous.
Oui, la douceur partout avec une moyenne qui va encore de 15 à 22 degrés du nord au sud, hein, de Brest jusqu'à Ajaccio. Pour le soleil, c'est un petit peu plus mitigé. Alors, il reste généreux entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Picardie, encore que sur l'Île-de-France, ça y est, le voile nuageux est en train de gagner du terrain. Donc, en direction de l'Alsace, là, le soleil est encore présent. Ailleurs, hein, je vous le disais, il est bien voilé avec un vent qui reste soutenu sur le Midi-Pyrénées, notamment le vent d'Autan qui souffle encore selon Météo France jusqu'à 80 km/h cet après-midi. Et si c'est voilé, c'est en partie à cause de ces particules, de ces poussières du désert qui remontent du Sahara depuis plusieurs jours déjà.
Et puis on a aussi, Céline, deux perturbations qui rentrent dans les terres.
Oui, la première toujours sous l'influence de la dépression Regina qui tournicote sur l'Espagne, le Maghreb. Elle concerne le Roussillon avec des averses qui vont se renforcer dans la journée, qui vont gagner les Pyrénées avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. On attend même de bonnes quantités sur les Pyrénées orientales. Et puis la deuxième, elle va arriver dans l'après-midi par la Bretagne. Petites perturbations faiblement pluvieuses qui concerneront le Cotentin, ces averses, dans la soirée.
Merci Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
On fait la course ?
J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais moi ?
Je sais pas, tu veux faire un dessin ? Bah, ça veut dire quoi ça, oui ou non ?
Vous les avez peut-être reconnus, ces deux personnages qui ont touché, qui ont séduit bien des spectateurs ces derniers mois, mais aussi les membres de l'Académie des Césars. Sandra, libraire, célibataire, farouchement indépendante, et puis Elliot, 5 ans, son petit voisin de palier dont la mère vient de mourir en donnant naissance à sa petite sœur Lucille. On va assister dans ce film à une autre naissance, la naissance des sentiments entre Sandra et cette famille brisée. Elliot, Lucille et le père éploré Alexandre. On va voir éclore l'attachement, puisque c'est le nom du film, qui a remporté 3 Césars. La semaine dernière, meilleur film, meilleure adaptation, meilleure actrice dans un second rôle. Et tout cela est né sous votre plume. Bonjour Alice Fernet.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, vous avez publié en 2020 L'Intimité. Et c'est donc le livre qui a inspiré l'attachement de Karine Tardieu. Alors est-ce que vous vous êtes dit, vous, jeudi dernier lors de la cérémonie, que c'était un peu aussi finalement votre César ?
Non, je ne me suis pas du tout dit ça. Au contraire, je me suis dit que j'étais peut-être l'inspiratrice, mais que je n'y étais pas pour grand-chose. Parce que vraiment, le film est une libre adaptation et non pas une adaptation. Mmh. C'était d'ailleurs tout à fait...
C'était le jeu dès le départ ?
Oui, parce que Karine, assez rapidement, m'a expliqué qu'elle était surtout intéressée par la première partie du livre et moins par la seconde. Et puis par ailleurs, on s'est rendu compte qu'un film dure 1h30... Une lecture de mon livre dure à peu près 15 heures et qu'elle ne pouvait pas faire entrer dans son film tout ce qu'il y avait dans le livre.
Alors c'est vrai que c'est deux œuvres différentes, mais est-ce que tout de même, lorsqu'on écrit, on a quelque part dans un coin de la tête l'idée qu'un jour, quelqu'un pourra le mettre en image, ce récit ?
Alors d'abord, moi je voudrais dire que je me suis toujours intéressée au rapport entre le cinéma et la littérature parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit un livre sur les Gitans et j'ai dû regarder à peu près 20 fois Le temps des Gitans de Kusturica. Et à chaque fois, j'étais fascinée par l'impact dans l'instant du film et je me disais qu'aucun livre atteignait à cette intensité. Et j'ai fini par adapter un film, j'ai tiré un livre d'un film qui existait de Joseph Mankiewicz qui s'appelle « Chaîne conjugale ». Et j'ai vraiment, à ce moment-là, considéré que c'était deux œuvres différentes qui travaillaient avec des moyens complètement différents et qu'il y avait des choses que le cinéma pouvait faire, que la littérature ne pouvait pas faire, et inversement. Et surtout, j'ai pensé qu'un livre, c'est... Ce que peut faire un livre, c'est... Ce que peut faire la littérature, c'est entrer dans la tête des gens, alors que le cinéma peut montrer et faire entendre. Et ça fait une grosse différence. Et quand j'écris mes livres, je ne pense pas du tout au film. J'ai même parfois rêvé qu'il soit adapté quand je serai morte.
D'accord. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de voir son œuvre comme ça, sur un écran, racontée par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, est-ce que vous avez hésité lorsque Karine Tardieu vous a dit qu'elle souhaitait adapter votre livre ? D'ailleurs, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté ?
Oui, oui. Alors, je crois que quand même Actes Sud avait envoyé mon roman à Karine. Et elle a raconté que c'était Fanny Ardant qui l'avait convaincue que c'était un livre pour elle. Mais pour ma part, moi, j'ai pas été au courant de tout ça. Elle m'a juste appelé un jour. Et puis ensuite, je crois que c'est une affaire de personne. Parce que, effectivement, moi, je considère que c'est une autre œuvre. Donc, j'ai envie de donner mon livre, si je le donne, à quelqu'un dont j'admire le travail.
Vous connaissiez ces films ?
Alors, je ne les connaissais pas, justement. Précédemment, j'avais donné un de mes livres préférés à Tran Anh. Lui, je connaissais son travail. Karine, je l'ai découvert quand elle m'a téléphoné. Elle m'a invitée tout de suite à regarder Les Jeunes Amants, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je connaissais Au témoin d'un doute, mais je n'avais pas mémorisé que c'était Karine Tardieu. Donc, j'ai senti que c'était un cinéma des personnes que je trouvais agréable. On partage tous les deux le goût du cinéma de Claude Sautet, donc c'était plutôt un bon indicateur.
Il paraît que c'est Fanny Ardant, d'ailleurs, qui lui a dit, qui jouait dans les Jeunes Amants, son film précédent, qui lui a dit, tiens, regarde, ce livre, vraiment, je crois qu'il est fait pour toi, il est fait pour ton univers, parce que c'est vrai que vous avez toutes les deux des réflexions sur le couple, l'amour, loin des clichés, loin des conventions, vous tissez un peu les mêmes liens.
Alors, quand on a discuté toutes les deux, Karine a résumé finalement, surtout quand elle m'a dit qu'elle allait appeler le film L'attachement, qui est aussi une manière de s'approprier complètement son œuvre, elle m'a dit, tu as écrit un livre sur la manière, comment faire famille, et moi je vais faire un film sur... Non, moi j'ai écrit comment faire des enfants et elle voulait faire comment faire famille.
Vous en avez pensé quoi du titre d'ailleurs ? C'est vrai que
j'ai trouvé que c'était la preuve qu'elle avait extrêmement bien compris. Parce qu'une des problématiques que je trouve commune aux livres et aux films, c'est justement la manière dont les liens se tissent hors de tout contrat, de toute convention, que tout ce qui est génétique, contractuel, n'a pas tant d'importance que ça dans l'établissement d'une relation entre deux personnes.
On va aller au standard de France Inter, où nous attend Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et bienvenue, je vous laisse poser votre question à Alice Fernet.
Oui, bonjour, je voulais vous demander, alors moi j'ai pas lu votre livre, mais j'ai vu le film qui m'a beaucoup touchée, et je me demandais qu'est-ce que vous aviez pensé de l'adaptation de votre livre. Voilà, c'est la première question, et effectivement là en lien avec ce que vous veniez de dire, je crois que ce film était vraiment très intéressant par rapport à cette question de la façon dont justement le lien d'attachement se crée ou ne se crée pas et par où ça passe. Voilà, donc je voulais poser cette question.
Merci Cécile pour votre question.
Merci Cécile. Alors j'ai vu le film 5 fois. Et donc, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et la première fois que je l'ai vu, c'était une projection d'équipe. Et j'étais accompagnée de l'éditrice avec qui j'avais travaillé, Marie Demeure, qui connaissait très, très bien le livre. Et puis, j'avais été constamment prévenue par Karine qui me répétait sans cesse « Je t'ai trahi, je t'ai trahi ». Elle avait modifié le nom de la mère qui meurt en accouchant. Elle l'avait appelée Cécile et moi, dans la vie, je m'appelle Cécile. Donc, vraiment, c'était amusant et je m'attendais à une trahison, effectivement. Et j'ai compris pourquoi elle disait ça, puisqu'effectivement, toutes sortes de choses dans le film ne sont pas dans mon livre. Mais en revanche, comme ce sont mes personnages, je ne me suis pas sentie aussi trahie que ça. Et en particulier, elle n'a pas modifié la psychologie des personnages, que ça soit celui qui est joué par Pio Marmaille, le père, ou celui qui est joué par Valeria Bruni, Tedeschi. Les deux sont exactement comme je les ai, lui, extrêmement fidèle et profond, et qui ne tourne pas la page à toute vitesse, et elle, effectivement, incroyablement libre, qui n'a pas voulu d'enfant et qui n'a pas du tout regretté. Et ça a contribué au fait que je ne me suis pas sentie si trahie que ça.
Et qui sont super, en plus. Tous les deux, ce sont de remarquables comédiens et qui incarnent très bien les personnages.
Ils portent le film.
Mais je m'interrogeais parce que quand on écrit, quand on donne vie à des personnages, on les imagine forcément un peu physiquement. Là, vous vous êtes retrouvés face à des comédiens qui étaient peut-être très différents de l'image que vous étiez fait de votre personnage.
Alors, c'est assez étrange parce que ça dépend complètement... c'est différent pour chaque livre. Dans certains livres, oui, d'abord, on peut parfois écrire carrément un portrait physique, mais là, je ne l'ai pas fait. Et comme, en fait, le livre a très vite commencé par des conversations, qui sont en quelque sorte les conversations après un deuil, donc des conversations dans un choc. Une des scènes très belles du film, c'est la scène où il dit au petit garçon que sa mère va parvenir. Et donc, j'avais beaucoup plus des voix en tête que des physiques. Et même, je crois, m'être posé la question à un moment, me dire « Tiens, je ne les ai pas décrits ». Mais donc, ça ne m'a pas du tout gênée pour ce livre-là. Pour d'autres, ça aurait pu.
Elle dit, elle disait sur la scène des Césars, jeudi dernier, Karine Tardieu, en recevant ce prix, la trame repose sur tout ce qui nous relie les uns aux autres dans cette société qui est riche des murs un peu partout. Est-ce que vous vous êtes dit que c'était aussi un joli compliment à votre livre ?
Mais je me suis dit que j'avais bien fait de lui donner le livre dans le sens où on pourrait dire on est raccord, c'est-à-dire que moi je crois que dans tous mes livres, on voit bien que ce qui m'intéresse, c'est uniquement les relations. Il y a très peu de descriptions des extérieurs, c'est pas social du tout, je suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse aux questions, aux milieux sociaux, je m'intéresse aux émotions et à la manière dont les gens vivent certaines situations particulières. Dans ce livre, ce sont des situations très fortes. Mais de ce point de vue-là, donc on a le même centre d'intérêt principal.
Alors moi, j'ai lu votre livre, j'ai vu aussi le film, et je me suis dit qu'il y avait tout de même toute une partie de votre œuvre, j'allais dire très réflexive, parce que c'est un roman, bien sûr, mais on sent que vous avez des messages à faire passer sur les débats qui traversent la société, sur ce qui fait famille, sur la parentalité, sur la gestation pour autrui aussi, ce qui n'existe pas dans la version cinéma. Est-ce que vous vous êtes dit tout ça, j'aurais aimé que ça transparaisse davantage, ou bien justement, bah, peut-être que les gens qui ont vu le film auront envie de lire le livre et ils viendront à mon œuvre par ce biais-là.
Non, je me suis dit que je devrais écrire le scénario de la deuxième partie.
Mais oui,
avec, j'ai des amis scénaristes, et je me suis dit, parce qu'effectivement, elle a été complètement délaissée. Or, c'était une question importante, c'était même la source du roman. Je m'étais dit, est-ce qu'on peut faire un roman sur la question de la gestation pour autrui, qui est très vite devenu un roman sur le désir d'enfant et sur toutes les manières de faire des enfants. Et donc, effectivement, ça, Karine ne l'a pas du tout abordé.
Alors, je voudrais vous lire un message qui nous vient d'un auditeur, Bernard, qui nous dit « Je voulais dire toute mon admiration pour cette femme dont j'ai lu tous les bouquins et la remercier sur ce qu'elle dit sur les relations hommes-femmes, quel que soit le sujet, c'est un régal à lire. En tant que papa, l'intimité m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous êtes heureuse aussi qu'il n'y ait pas que des femmes qui vous lisent et qui vous apprécient, même si on sent bien sûr qu'il y a quelque chose de très féministe dans votre œuvre ?
Ah bah, je suis contente que vous disiez féministe, parce que je le suis profondément. Et justement, ma répulsion pour la gestation pour autrui, c'était vraiment une répulsion pour le fait que quelque chose d'aussi intime et extraordinaire que porter un enfant soit tout d'un coup envahi par le commerce, le profit et même l'exploitation. Et c'est vrai que j'ai aussi écrit ce livre pour que les hommes y réfléchissent. Et donc, je suis très contente d'avoir des lecteurs hommes, oui.
Il y a eu des conversations autour de vous qui ont justement nourri un peu.
Mais oui, parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif pour le respect de la personne, et où j'ai pu voir en fait une chose amusante, c'est que les romanciers sont nuls, les romanciers ne savent rien. En fait, ils savent juste raconter des histoires, mais ils ne pensent pas comme les philosophes, ils ne connaissent pas le droit comme les juristes ou l'histoire comme les historiens. Et c'était un défi pour moi justement de faire entrer ce sujet dans un roman.
Alors reparlons des Césars, puisque c'était la semaine dernière et que ça redonner un coup de projecteur sur votre livre, l'intimité, sur le film aussi, l'attachement, qui est ressorti dans une centaine de salles à travers la France, notamment à l'UGCDAL au cœur de Paris. Je voudrais qu'on écoute son directeur, Patrice Lemarchand, au micro de Cécilia Arbonnat.
L'attachement à l'attachement des spectateurs du UGCDAL a été réel. Mais évidemment, les films nous quittent à un moment, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'à UGC, notamment à UGCDAL, on a des rituels de rattrapage, notamment autour des Césars. Et là, donc, on avait une salle qui était consacrée aux Césars toute la semaine dernière. On a démarré dès le mercredi avec 5 films. Et puis, comme ça, jusqu'à jeudi soir, on a suivi la cérémonie. Et à l'issue de la cérémonie, évidemment, on a décidé de favoriser l'attachement qui a été en exploitation à partir du vendredi jusqu'à la fin de la semaine. Et ça a très, très, très bien marché, effectivement, ces séances de rattrapage. On en aura encore, d'ailleurs, cette semaine. Je crois que c'est samedi à 18h. Et nous sommes particulièrement ravis de le soutenir.
Est-ce que cet effet César que décrit Patrice Lemarchand à l'UGCDAL, est-ce qu'il a aussi un impact sur le livre, l'intimité ? Est-ce que vous avez vu un effet sur les ventes de l'intimité ?
Non, moi, je vois rien, parce que déjà, je suis pas chez mon éditeur, mais je sais qu'il a retiré 3000 exemplaires et que le film avait fait vendre à peu près 10 000 exemplaires, parce qu'on avait fait une édition poche avec la couverture, l'affiche en couverture. Mais les Césars, moi, je les suis depuis toujours. Et en fait, comme romancière, la réflexion que ça m'a inspirée, c'est, je sais qu'il y a eu 4 955 votants. Et c'est la cérémonie elle-même et les prix elles-mêmes que je trouve très intéressants pour un auteur, parce que nous, je me suis demandé qu'est-ce que ça serait la transposition dans le monde du livre des Césars. Alors bien sûr, les gens se foutraient complètement de voir Alice Fernet dans la salle de l'Olympia. Ils préfèrent voir les grandes stars, c'est normal, il n'y a pas cet effet star dans la littérature. Mais ce qui me frappe, c'est nous, dans le monde du livre, on a une cinquantaine de personnes qui donnent les grands prix, toujours les mêmes, alors que par exemple Cannes, c'est un jury tournant. Et là, 5000 personnes qui votent, c'est-à-dire que ça serait comme si nous, tous les gens qui travaillent dans l'édition, auteurs, éditeurs, imprimeurs, votaient. Ça serait extraordinaire.
Mais il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à monter.
C'est ce que j'avais
vous lancez
dit.
Vous lancez l'appel à l'initiative.
Pourquoi on ne fait pas les Césars de l'édition ?
Et au-delà de ça, est-ce que cette expérience, tout ce qu'on a raconté de ce processus, de ce livre qui est arrivé dans les mains d'une réalisatrice, de ce choc de voir votre histoire, une partie de votre histoire sur grand écran, la vie du livre aussi après la sortie du film, est-ce que tout ça vous ouvre des portes, des perspectives, une réflexion ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez peut-être écrire différemment maintenant ?
Alors, déjà, je dirais que ce qui est réjouissant, c'est la découverte que j'ai faite depuis quelques années, que vraiment le monde du cinéma, les gens qui font des films, lisent beaucoup et que la littérature les inspire énormément. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres. Mmh. Et donc, et puis là, vous voyez, par exemple, en ce moment, j'en écris un, il ne sera pas du tout cinégénique.
Vous le savez déjà ?
Oui, je le sais
déjà. Ça ne va pas être possible ?
Oui. Non,
ça et des scénarios, possible. Ça vous intéresserait peut-être ?
Oh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des... Je ne me sens pas assez qualifiée pour écrire des scénarios. Et je pense que j'aurai la frustration de justement... le fait que c'est un produit intermédiaire, alors que le roman, je suis maître de tout, et puis c'est un produit, une fois qu'il est parachevé, personne n'y touche. Donc c'est quand même un grand pouvoir de pouvoir tout écrire et que personne n'y touche, alors que le scénariste, il est vraiment... en intermédiaire.
En tout cas, si vous n'avez pas lu le livre, c'est le moment. Si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment aussi. Votre livre, L'Intimité, est donc paru chez Actes Sud. Et le film, L'Attachement, est donc à revoir, on l'a dit, dans les salles et puis aussi sur la plateforme Canal+. Merci beaucoup, Alice Fernet, d'être venue aujourd'hui dans le 13-14 de France Inter. Tout de suite, le feuilleton. Nous allons arpenter une nouvelle fois les allées du bazar d'électricité. Depuis le début de la semaine, Alexis Morel nous fait découvrir ce très vieux magasin parisien. 140 ans d'existence au service des lampes et des ampoules. Aujourd'hui, on pousse la porte du secteur luminaire classique, presque un musée, où l'on peut venir admirer les lustres du bazar. Mais avant cela, on se rend au rayon abat-jour.
Vous avez la lampe pour qu'on essaye, pour qu'on regarde?
Non, mais
ça part assez vite.
C'est vrai, donc, ça devient rare.
Avant, c'était les tonkinois.
Voilà.
Ce qu'on appelle la vraie forme des années 50.
Et ça, maintenant, ça n'existe que sur mesure.
C'est ça. Cette carcasse, elle est très chère et ça ne se fait plus.
Maintenant, on a vendu les derniers. 120, 130 euros hein, pour un petit.
Mais vous avez des bonnes infos.
Oui, des bonnes
infos. Moi, je m'appelle Noélia et en fait, je suis au bazar depuis bientôt 14 ans. Je suis arrivée ici par hasard et je suis tombée amoureuse de ce lieu, de cette boutique. J'ai fait plein de rayons, j'ai travaillé au moderne, je suis arrivée au classique et je trouve que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. En fait, un abat-jour, il faut qu'il soit élégant, il faut qu'il aille avec le style du pied de lampe, par une couleur, par une matière. C'est comme la mode, hein ? Là, par exemple, ce plissé, il s'appelle le plissé Dior. Ce qu'on appelle de l'abat-jour haute couture, c'est des plissés. Donc, il y a un jeu de lumière qui va se faire par le travail. À la base, on avait des abat-jours en vessie de porc qui faisaient vraiment de très jolies lumières, mais on avait vraiment la vessie travaillée. Donc, c'est interdit. Voilà, on n'a plus le droit de le faire. Donc, on a des matières un peu plastifiées. Mais vous savez, les gens qui ont les abat-jours en vessie de porc, ils veulent que ça. Et quand on a connu le rendu que ça donnait, effectivement, ils nous disent « Oui, mais le plastique, il ne rend pas pareil. » Et c'est vrai, ça faisait vraiment des lumières plus jolies.
Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes des fidèles ?
Oh, ça fait des années, ma mère venait beaucoup.
Oh, ça doit faire 50 ans, si c'est pas plus. Maintenant, il n'y a plus de magasins comme ça à Paris.
Il y avait des jolies choses.
Eh bien, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Hein. Au revoir.
Au revoir, merci, madame.
Au revoir, monsieur.
Je m'appelle Olivier, je travaille au bazar de l'électricité depuis environ 23 ans, oui. C'est une passion, oui. Les belles matières, le cristal, le bronze doré, voilà, c'est mon univers. La France a une tradition de luminaire historique, unique, même au monde. Hein. Tout le grand goût venait de la France et le magasin perdure cette histoire, 140 ans. C'est presque le musée vivant du luminaire. Là, derrière nous, il y a un mur avec plein d'appliques en bronze doré, avec du cristal. Il y a des appliques avec des feuillages, avec des feuilles ciselées. Voilà, c'est le style rocaille. C'est le style de Madame de Pompadour. Au milieu de la pièce, on a un très beau lustre, très riche, à la fois par le bronze et par la garniture de cristal, avec des magnifiques pampilles, poires... en cristal, avec cette irisation du cristal. Si on devait le caractériser dans l'histoire, il serait plutôt d'une autre période, la plus riche, la période de Napoléon III. Ce lustre est exceptionnel. C'est 10 000 euros. Hein. C'est donc les reproductions à l'identique. Parfois, les clients nous posent la question, est-ce que voilà, c'est des modèles anciens ou pas ? On n'est pas antiquaire, le magasin n'est pas un antiquaire. Les maîtres bronziers français... Ils ont des moules et ils refont les lustres à l'identique. Alors nous, on en commande un, voire deux, et après, ça demande beaucoup de semaines de travail. Hein. Sur des lustres comme ça, on est environ à 14-16 semaines. Hein. C'est du commerce d'art, en fait.
Et suite et fin demain de ce feuilleton, signé Alexis Morel au Bazar d'électricité.
France Inter. Le 13-14.
13h50, la France à table, chaque jeudi avec vous, Marie-Luce Ribaud du quotidien Sud-Ouest. Marie-Luce, on va parler aujourd'hui de cette nouvelle mode dans l'univers de la course à pied. Après l'effort, on casse la croûte.
Il fallait l'inventer, et c'est évidemment dans le pays de la gastronomie que l'idée est née. Celle de faire quelques foulées en groupe et de boucler la sortie dans une pâtisserie, une crêperie ou une pizzeria. Ces coureurs épicuriens se sont baptisés les food runners. Le phénomène est loin d'être anodin et il a ses lieux de culte, Instagram, TikTok et l'application sportive Strava.
Alors sur les réseaux sociaux d'abord.
C'est ici qu'on bat le rappel et qu'une économie explose, basée sur l'influence. Dans le magazine Time Out, le pionnier Aymeric Bernard raconte qu'avec son frère, ils avaient pris l'habitude de courir pour tester tous les flancs de Paris. En septembre 2024, il lance une invitation sur Instagram, une course de course, trois courses. À chaque fois, le nombre de participants double, le Flanc Runner Club est né. Un mois plus tard, deux copains les imitent. Le Food Runner Club de Théo Chaudet et Théo Delahaye compte aujourd'hui 54 000 followers, autant que de participants au dernier marathon de Paris. Les boutiques et les marques ont vite saisi l'impact positif de ces joyeuses bandes de coureurs. Elles les invitent à venir déguster, conscientes que la publicité qu'ils en font sur leur fil leur apporte un shoot de visibilité. Un exemple, la semaine dernière, une enseigne de supermarché bio offrait des soupes miso et des tote bags remplis de produits pour fêter le nouvel an chinois. Le succès se répand comme une traînée de poudre. Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, personne n'y échappe.
Et on voit, Marie-Luce, que cette tendance, elle se propage aussi sur Strava.
Car c'est sur cette appli, où on a coutume de mesurer sa performance, qu'on vient chercher sa récompense numérique. Ici, on ne like pas, on envoie des kudos, du grec ancien qui signifie la gloire, la renommée. On en a échangé 14 milliards l'an dernier sur la planète. Et en France, on constate un multiplicateur gourmandise. Vous en récolterez trois fois plus si vous postez votre activité avec une photo de chaussons aux pommes ou de mousse au chocolat. Céline, le sucre ne devient-il pas plus rentable que la sueur ?
Alors finalement, qu'est-ce qu'elle révèle de nos pratiques sportives, ces courses ?
Pour Guillaume Vallée, économiste à l'université de Grenoble et auteur de La Fabrique du Muscle, ces courses épicuriennes, essentiellement suivies par la Gen Z, les 20-30 ans, sont en phase avec l'immense majorité des pratiquants qui n'avalent pas plus de 6-7 km de bitume par semaine. Les food runners rendraient donc plus visible cette majorité pour qui le plaisir l'emporte sur la compétitivité. Car on a beaucoup plus parlé ces dernières années des courses extrêmes, de ces food ultra-trail, de marathon ou de mud run, sorte de parcours du combattant dans de la boue jusqu'au cou. Enfin Céline, ces foulées gourmandes sont bien plus que des séquences sportives. Elles sont des vecteurs de rencontres amicales et pour certains, elles remplacent même Tinder. Ce qui est après tout plutôt rassurant.
Allez, pour terminer, quelle recette Marie-Luce pour rejoindre les food runners ?
Je précise que je n'ai pas noté l'existence de courses terminant par une choucroute ou un lièvre à la royale. On va tout simplement préparer des pancakes énergétiques à avaler 2 heures avant l'effort pour être en pleine forme. Mélanger dans un bol 100 g de farine d'avoine, une banane mûre écrasée, 2 œufs, 200 ml de lait végétal et une cuillère à soupe de miel. Faites cuire des petites louches de pâte dans une poêle chaude, retournez à mi-cuisson, badigeonnez d'un peu de compote de pommes et gardez quand même un peu de place pour le bun, l'arancini ou le cookie de l'arrivée.
Merci Marie-Luce Ribaud. Du quotidien Sud-Ouest de C'est la France, c'est une chanson et votre invité Julien Baldacchino aujourd'hui est chef d'orchestre et compositeur.
Thomas Roussel, qui a assuré la direction musicale de la passation entre l'Italie et la France lors de la clôture des Jeux Olympiques d'hiver avec une Marseillaise qu'il avait réarrangée. En pleine préparation de la prochaine passation pour les Jeux Paralympiques, cette fois il m'a reçu dans son studio entre son piano et ses synthés pour parler d'une chanson qui l'a profondément marqué, All is Full of Love de la chanteuse Björk.
Ma fenêtre sur la pop à l'époque c'était MTV. Il y avait cette chaîne à la maison, parce que mes parents étaient profs de langue, donc ils avaient le câble, tout ça, pour regarder des chaînes anglaises, des chaînes italiennes. Enfin, c'était un peu ouvert sur l'Europe. Et à l'époque, j'étais constamment branché sur MTV. Et ce clip incroyable de All is Full of Love, c'était en fait deux robots qui s'entrelaçaient. Ça devenait très érotique entre deux robots et tout, c'était très visionnaire. Ça pourrait presque faire IA d'aujourd'hui, enfin, c'est impressionnant. Et je suis tombé en amour, comme diraient les Canadiens, direct, sur ce morceau. Je crois qu'il n'y a pas un morceau que j'ai produit moi depuis sans qu'il n'y ait pas quelque chose qui me rappelle ce morceau. En fait, à chaque fois je suis obligé de mettre un élément qui va me rappeler All is Full of Love. Donc c'est un morceau qui m'a vraiment marqué dans mon ADN. Ouais. C'est un morceau vraiment hybride qui à la fois est très pop parce qu'il a eu beaucoup de succès, mais on ne s'attendait pas du tout en fait à entendre ce genre de sonorité. Et dans ces instruments, en fait, il y a par exemple un cymbalum qui passe, ou une mandoline d'ailleurs, je ne suis pas sûr si c'est une mandoline ou un cymbalum, mais c'est un instrument comme ça d'Europe de l'Est, un instrument à cordes, un peu comme une petite harpe. J'ai mis beaucoup dans mes morceaux, genre dans l'album Le Préquel, un projet que j'ai sorti en 2017, ou même ce que je prépare pour les Jeux Olympiques, pour la cérémonie de passation là, dans 2 semaines, pour le Paralympique. Et aussi, elle nous lâche un accordéon. Et ça, j'aurais jamais pensé aimer un accordéon dans de la pop. Et ça, ce genre de surprise à la fin d'un morceau, c'est tellement poétique, c'est tellement beau.
Vous le conscientisez, cette influence, ou elle vous revient comme un miroir de temps en temps?
Je pense que je l'ai vraiment conscientisé, parce que quand j'ai sorti mon album en 2017, ma ligne directrice était d'essayer de faire quelque chose de singulier, qui soit pas fait par d'autres gens, parce que sinon j'avais l'impression que ça servait un peu à rien. Et donc, quand j'ai fait cet album, j'ai vraiment essayé de comprendre tout ce qui avait fait mon ADN musical. Et il y avait évidemment du Michael Jackson, mais il y avait aussi beaucoup de Björk, pas que All is Full of Love.
Cette chanson, Björk dit l'avoir écrite, Julien, en voyant le soleil revenir après un hiver difficile.
Et elle a très vite attiré l'oreille déjà musicale à l'époque de Thomas Roussel.
Je composais déjà, j'ai commencé à composer vers 10-11 ans et j'avais des machines à la maison aussi déjà pour faire un peu de musique électronique. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais un morceau, je m'amusais d'ailleurs à reproduire des morceaux à l'identique avec les moyens du bord à l'époque. Et donc quand j'ai entendu ce morceau de Björk, All is Full of Love, c'était déjà l'oreille d'un compositeur et qui met les mains dans les machines pour créer les sons et les assembler ensemble pour créer une ambiance et tout ça.
Travailler avec Björk, c'est quelque chose qui vous ferait rêver?
Ah ouais, ça, j'osais même pas l'imaginer. J'ai jamais osé imaginer ça. Ça serait extraordinaire. J'avais pu faire des arrangements et des orchestrations de Björk pour des shows Chanel au Grand Palais pour Karl Lagerfeld en 2011, il me semble. J'ose espérer que Björk l'avait entendu à l'époque, un défilé Chanel au Grand Palais. On peut se dire que ça avait dû lui remonter jusqu'aux oreilles, j'espère. Et puis là, elle a fait des choses fantastiques avec Rosalia, évidemment. Quelque chose de tellement ovniesque et nouveau et rafraîchissant que c'est le genre d'album sur lesquels on se rue parce que ça nous ouvre un peu les œillères, quoi.
Un des premiers mots que vous avez dit, un des derniers mots que vous avez dit, c'est ovni, ovniesque. Surprendre, proposer des choses qu'on n'a jamais entendues en musique, c'est encore possible aujourd'hui?
Ah, c'est une bonne question, d'autant plus que l'IA maintenant est capable de composer des morceaux en moins de temps que la durée du morceau. J'ose espérer que les humains créeront justement peut-être de nouvelles choses et des choses différentes grâce à l'IA qui nous repousse un peu dans nos retranchements. Et bien peut-être justement que nous, ça va nous dire ça, l'IA sait très bien le faire, donc faisons autre chose. C'est mon espoir.
Full of Love de Björk, c'était donc le choix du compositeur Thomas Roussel.
Que l'on retrouvera donc à Cortina pour la clôture des Jeux Paralympiques le 15 mars prochain, et ce sera diffusé sur France 2.
Merci Julien Baldacchino.